très heureux d'accueillir une nouvelle fois Anguille Châtel.
Mais moi, je suis très heureux d'être ici.
Voilà, avec plaisir. C'est là, on faisait le point, effectivement, tu viens à l'Institut 2015.
Ouais.
Voilà, donc ça commence à faire un bon compagnonnage de route. Et tu viens et tu reviens donc, et tu reviens puisque ta conférence et le sujet que tu traites reçoit un accueil catastrophique systématiquement des auditeurs. Et que
donc, pour donc vous faire souffrir. Suffisamment gentil de me faire revenir pour que j'ai au moins les plaisirs.
Voilà, pour que tu puisses...
à vos dépens.
Voilà. Donc, tu es presque la dernière, enfin, une des dernières conférences du cycle de formation hein, sur fragilité humaine, début et fin de vie, quels enjeux ? Et avec une configuration un peu particulière pour cette conférence, puisque tu n'es pas religieux toi-même, tu ne représentes pas un culte en particulier. Par contre, tu es sociologue des religions, docteur en sciences sociales des religions et de la laïcité de PHE, bien connu de nos services. Et tu as investi ce sujet autour de la fragilité humaine, et en particulier de la fin de vie, des fins de vie, parce que je crois que tu travailles aussi sur le plan des fins de vie symboliques qu'on peut avoir au cours d'une vie professionnelle ou autre, des nouvelles vies. Tu as investi ce sujet depuis 2004, me disais-tu, soit 15 ans. Et tu as donc développé une compétence forte sur ce sujet, à tel point que tu as été, par exemple, auditionné l'an passé, à l'époque où il s'agissait de toiletter les lois Leonetti, si je me rappelle bien, par le Sénat et l'Assemblée nationale.
Oui, et puis j'en parlerai, il y a eu d'autres épisodes.
Voilà. Donc tu es un des experts français sur ce sujet. Et donc, un immense merci de venir rencontrer, témoigner de ton expertise et puis échanger aussi avec les uns et les autres sur ces questions. Ce soir, à l'IHEMR. Tanguy, est-ce que l'enregistrement enregistre ? L'enregistrement enregistre.
Très bien.
Donc on peut y aller quand tu veux.
Très bien. Merci Xavier. Bonsoir à chacun et à chacune. On va passer un petit moment ensemble. Pour moi, c'est toujours très très intéressant de venir ici parce que j'essaye de privilégier les échanges parce que ce que vous avez à questionner, ce que vous avez apporté comme témoignage, moi ça m'enrichit. C'est aussi ça qui fait que depuis 15 ans, je continue à travailler ces sujets. Il y a une chose que tu as omis de présenter et qui me tient extraordinairement à cœur, c'est que je me suis intéressé à la sociologie des religions et de la laïcité parce que en 2001, je suis devenu bénévole en soins palliatifs. J'ai choisi de m'engager dans cet accompagnement des personnes en fin de vie. Ça avait une place dans la quête de sens qui était la mienne à ce moment-là. J'étais dans des métiers de la haute fonction publique où ça vous fait rigoler, mais mon métier c'était d'essayer de moderniser le système éducatif pour le compte de l'éducation nationale. Et ne me dites pas que vous n'avez pas vu de changement, en tout cas moi j'en ai pas vu énormément, mais quand même, voilà. Et donc pendant 15 ans...
vraiment des soins palliatifs.
Merci de me signaler comme ça. Je l'ai senti, je l'avais senti à l'époque, et donc la passerelle avec les soins palliatifs était assez évidente, presque. Mais avant, j'avais commencé dans des environnements tout à fait différents. J'ai commencé chez Deloitte comme avocat fiscaliste, donc je suis passé sur des métiers... Mais le fil conducteur, c'est que je voulais essayer de comprendre quelque chose de cette expérience humaine, de cette quête de sens dans un contexte de modernité qui est travaillé par des forces un peu divergentes. Et il m'a semblé que cette sorte d'appel que je ressentais autour de l'accompagnement de la fin de vie me donnerait l'occasion de voir, de sentir, de comprendre peut-être quelque chose. Et donc c'est après que je suis devenu sociologue parce que j'ai eu envie non seulement de vivre cette expérience de bénévole, mais de comprendre ce que ça disait de la société contemporaine. Et la question que j'ai travaillée dans mon doctorat de sociologie, c'était celle de la place de la souffrance spirituelle, ce qui va rejoindre la thématique qui nous préoccupe ici. Puisque j'étais dans une association laïque, que les fins de vie, pour l'essentiel, se déroulent aujourd'hui dans le contexte hospitalier laïque ou bien dans des établissements du secteur médico-social, mais pas forcément confessionnels. J'avais donc identifié qu'il y avait eu un glissement et que là où pendant des siècles les fins de vie étaient accompagnées par les instances religieuses, eh bien désormais elles étaient accompagnées ou elles s'inscrivaient dans le cadre public, laïque, de l'hôpital, Et quelle place restait-il dans ce contexte-là pour la question du sens, pour la question des croyances, pour la question de la souffrance et du rapport à la mort. Et donc ça me paraissait vraiment intéressant d'aller creuser ce sujet-là, parce qu'en plus je me posais la question de savoir, comme d'autres avant moi, plus illustres, je pense à Edgar Morin, je pense à Louis-Vincent Thomas, je pense à Vladimir Yankelevitch, qu'est-ce que c'est qu'une société qui évince la question de la mort, qui l'a remise à la sphère privée ou qui veut la traiter sous un angle essentiellement administratif, sanitaire, éventuellement un peu social, mais qui élude la place que la spiritualité a toujours eue dans la perception de la question de la mort. Donc il me semblait que c'était une question qui avait quelque chose d'extrêmement moderne à l'époque où, je me souviens, même ici, puisque j'avais des cours qui avaient lieu dans cette maison, à l'EHESS et à l'EPHE, pas très loin, Marcel Gaucher nous disait que le catholicisme serait la religion de la sortie de la religion, et que différents sociologues des religions pensaient que l'avenir serait finalement moins religieux, qu'on était sur une hypothèse d'un monde de plus en plus sécularisé. Et force est de constater que 10 ans après, même bien avant, 10 ans, 5 ans après, on inversait déjà cette hypothèse. En se disant que le monde ne serait pas moins religieux, qu'il serait sans doute autrement religieux, qu'il serait peut-être même plus spirituel, qu'il y avait une tension terrible entre un matérialisme et un individualisme d'un côté, et de l'autre côté une quête de sens et des approches communautaires qui se reconfiguraient. Bref, tout ça a été travaillé de manière assez intense. Donc moi j'ai trouvé que dans la question de la fin de vie, il y avait un terrain qui permettait sans doute d'éclairer plus largement la place du religieux dans la société. Et voilà, j'ai fait mon doctorat avec Jean-Paul Willem. Après, j'ai coopéré à l'Institut européen des sciences des religions. J'ai toujours continué à travailler cette question, mais moi, je ne travaillais pas tellement la question de la religion. Je travaillais la question de la spiritualité. Voilà. Pour justement ne pas enfermer la question dans soit on est dans du laïque, soit on est dans du religieux. Mais travailler la question du sens sous l'angle des quêtes spirituelles contemporaines. Et si vous êtes un peu familier du quartier, vous connaissez peut-être le Forum 104 qui n'est pas très loin d'ici, 104 de Vaugirard. Et donc je suis, en plus, je suis le président du conseil d'administration du Forum 104 depuis, je ne sais pas, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et donc on a tout un travail aussi pour voir comment les quêtes de sens s'intègrent dans la ville et ne sont pas forcément inscrites dans un champ religieux ou dans un canal religieux. Alors, pour revenir, ça c'est rapidement... la manière dont j'en suis venu à m'intéresser à ces sujets. Pour revenir sur la question que j'ai envie de discuter avec vous, qui est celle des fragilités au début de la vie et en particulier aussi à la fin de vie, je me suis beaucoup plus intéressé aux questions de fragilité en fin de vie, mais d'une manière transversale, c'est véritablement la question de la place des fragilités tout au long de la vie. Et dans l'expérience des fragilités, on voit très souvent une résurgence de la question spirituelle, voire de la question religieuse. Donc ça élargit encore le périmètre en se disant comment est-ce que notre société, laïque, républicaine, avec tout un tas de principes sécularisés, comment est-ce qu'elle rend compte de ces épreuves que vivent les gens et qu'ils, de manière presque ontologique, en tout cas au minimum anthropologique, qu'ils inscrivent dans une production de sens à laquelle ils cherchent à raccrocher du sens. Et est-ce que le fait de vivre des épreuves peut être un instrument de dialogue entre les gens, de rencontre peut-être entre les personnes, pour que au cœur de notre société, il n'y ait pas que la vision un peu matérialiste de qu'est-ce que je sais faire, quelles sont mes compétences, quelle est ma place dans le monde, et que notre société soit aussi un lieu où on puisse partager sur l'énigme de la souffrance, l'énigme de la mort, l'énigme de la vie, et que ce soit dans un lieu qui reste ouvert au dialogue. Bref, il m'arrive de dire que la laïcité pourrait devenir, ce que j'appelle un peu de manière provocatrice, une laïcité PPCM, c'est-à-dire une laïcité plus petit comme un multiple. C'est-à-dire une laïcité qui serait ramassée sur... ce qui ne fait pas débat, ce qui ne fâche pas. Voilà. Et en renvoyant à l'espace privé tout ce qui fâche. Sauf que, je me souviens d'avoir aussi travaillé avec Régis Debray en 2004 sur son rapport sur l'enseignement du fait religieux à l'école laïque, tous ces sujets-là, la République possède en elle-même une mission et fait vivre des lieux dans lesquels la question du sens ressurgit fatalement, que ce soit l'école ou que ce soit l'hôpital. Alors, les fragilités autour de la fin de vie et par extension autour de la naissance, elles se voient comment ? Ben, il y a une carence de discours autour de la fin de vie. On parlera peut-être un peu de l'actualité parce qu'elle est assez riche autour des questions de fin de vie. Ça n'a échappé à personne, avec une cristallisation sur la question religieuse qui s'est amplifiée. Mais la question de la fin de vie, c'est que, ou des fins de vie, je travaille aussi sur l'épuisement professionnel, sur les trajectoires en forme de rupture, que ce soit un divorce, que ce soit un licenciement, toutes ces fragilités-là, sont des occasions de se demander mais quel est le sens de ma vie et quelle est la valeur de ma vie. Dans un monde qui voudrait nous faire croire que notre valeur serait soluble dans notre utilité. Et donc il y a comme un déficit d'accompagnement des pouvoirs publics sur ces questions-là. C'est-à-dire que les pouvoirs publics vont essayer de régler le problème que peut poser par exemple le burn-out, mais sans mettre en place un véritable accompagnement qui comprennent la nature de l'épreuve qui se joue. Les pouvoirs publics sont plutôt dans l'esprit aujourd'hui de résoudre les incendies, d'apporter des solutions, des outils juridiques, mais sans rentrer dans le tissu commun qui nous parcourt tous, c'est mais qu'est-ce que je vaux quand je suis fracassé, quand je suis abîmé par une situation de vie. Et ce que j'ai travaillé autour de la fin de vie, c'est... quel est le besoin fondamental autour de la fin de vie ? Pendant des générations, c'était un besoin de s'inscrire dans une explication partagée, collective, un ensemble de croyances, et les êtres humains se trouvaient plutôt rassurés quand ils épousaient un certain nombre de convictions, notamment religieuses, quand ils adoptaient un certain nombre de codes, également religieux. Si je fais référence à Philippe Ariès, l'historien, il nous dit « Pendant longtemps, on savait comment mourir. Tant et tant de fois, on avait été témoin de scènes semblables. » Sauf que le paysage de la mort a été rattrapé par la question de l'individualisme. Et donc aujourd'hui, moi je suis en tant que bénévole, toujours, depuis 20 ans, régulièrement interpellé par des gens qui m'agrippent la manche et qui me disent « Monsieur, comment mourir ?» Et on mesure... Quand une question comme ça se pose, le vertige qui a saisi les gens qui se trouvent désarmés, en situation de désarroi, parce qu'ils n'ont plus de code, que les anciens codes ne font plus forcément recette, les codes du Moyen-Âge, de l'Ars Moriendi, où il suffisait de se confesser et de se convertir, ne sont plus des explications tout à fait suffisantes. Et il n'y a pas eu de production de sens alternative. Donc l'individu est renvoyé à lui-même dans son obligation d'inventer sa propre manière de mourir. Et comme on a construit le mythe d'un individu autonome, indépendant, capable d'affirmer par sa propre volonté ses choix de vie, eh bien face à la mort, on mesure que les gens aujourd'hui sont extrêmement désarmés. Ils sont capables de construire leur trajectoire professionnelle avec des outils, avec une idée un peu volontariste, du self-made man, que sais-je. Mais face à la mort, les voilà privés à la fois de l'exemplarité qui pouvait exister avant et des ressources de sens collectif qui pouvaient aussi exister. Et il y a une espèce de vertige qui fait jaillir cette question en apparence anodine, mais pourtant déchirante, comment mourir ? Et le vertige est double, eux ne savent pas comment mourir, et moi je ne sais vraiment pas quoi leur répondre. Donc on est dans une rupture d'accompagnement. Avant il y avait quelque chose d'un peu normatif, sans doute, mais qui avait des vertus rassurantes, peut-être. Et aujourd'hui, on est face à une indétermination, face à quelque chose qui saisit les gens, prend les gens de court. Plus personne ne sait comment se positionner par rapport à la mort. Or, historiquement, ça a toujours été la religion qui s'est positionnée dans le rapport à la mort. Donc cette sécularisation, elle a eu des vertus en termes de désenchantement, cher à Weber... Elle a permis l'émergence d'un individu un peu libéré d'une certaine normativité, mais en même temps, elle a produit un individu qui est désemparé,
si je reprends aussi ce que disait Alain Ehrenberg, le sociologue, en 1995, il nous parle de l'individu incertain. Ben, on est également incertain face à la mort et pas simplement face à la vie. Alors, est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un problème? Moi, je crois que non. Parce que, du coup, il y a autant de manières de mourir qu'il y a d'individus. Et que ce vertige va créer les conditions d'une question, et peut-être cette question va créer les conditions d'une rencontre. Vous voyez, comment on passe d'une question, pas à une réponse, parce que nous n'avons plus la réponse. Parce que nous ne sommes plus en capacité de dire aux gens, ben pour mourir, il n'y a qu'à faire comme ci ou il n'y a qu'à faire comme ça. Donc, si on est un tout petit peu honnête, on reconnaît que la question de la mort nous désarme tous, aujourd'hui. Et parce qu'elle nous désarme, eh bien, cette question peut devenir l'occasion d'un partage, d'une réflexion à plusieurs, d'un dialogue et peut-être d'une rencontre. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans le champ des soins palliatifs, où les bénévoles, mais aussi les professionnels, sont touchés personnellement par les questions que posent les malades et du coup font un cheminement individuel sur le sens de la vie, le sens de la souffrance, le sens de la mort. Donc cette absence de repères, essentiellement religieux, alors je fais abstraction pour l'instant de l'islam où il y a encore une présence très marquée en termes de corpus théologique, de corpus rituelique autour de la mort. Le judaïsme résiste bien aussi, mais quand même il est affecté. En revanche, les christianismes sont assez déboussolés par rapport à la mort. Et moi, j'y vois que c'est une chance. Une chance pour que tout ce mouvement que décrit Hervieux-Léger autour des bricolages spirituels, comme elle les appelait à l'époque, c'est une expression que je déteste, hein, parce que parler de bricolage spirituel, moi ça me fait penser à Castorama, je ne pense pas que ce soit le vocabulaire approprié, je préférerais qu'on parle de composition spirituelle, ce qui fait peut-être un peu plus composition florale, vous voyez, une manière que chacun a de créer quelque chose qui a de l'esthétique, qui a du sens, plutôt que de parler de bricolage. C'est pas un Lego, la spiritualité, c'est pas un peu un quart d'heure de bouddhisme, une demi-heure de yoga et deux heures d'approche de lecture théologique, c'est pas ça la quête spirituelle contemporaine. C'est plus subtil que ça, heureusement. Donc, mais quand même, on voit que ces compositions spirituelles, eh bien, elles se densifient au moment de la fin de vie. Et l'être humain, tout moderne qu'il est, retrouve un intense besoin de donner du sens, mais pas forcément un intense besoin de retrouver de la religion. Alors, il y en a qui vont réinterroger leur foi, perdu, il y en a qui vont réinterroger leur foi naissante, parce que c'est un moment extrêmement vif, la fin de vie. Contrairement à ce qu'on entend toujours dans notre société aujourd'hui, qui voudrait nous faire croire que l'agonie ne sert à rien et que l'histoire est déjà écrite, et donc autant l'abréger. Moi je suis témoin de situations qui inversent ça, qui contredisent ça. Je m'inscris dans des propos comme ceux du psychanalyste Michel de Musan qui nous disait « Le moment de la fin de vie, c'est le moment où l'être humain tente une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître. » Donc il y a une vraie vitalité, au sens libido des psychanalystes, il y a un vrai désir de vie qui peut surgir, y compris dans les dernières minutes ou dans les dernières heures. Il y a une intensité, un foisonnement. Et donc la quête spirituelle, elle est très intense, même au dernier moment. Sauf que si notre société n'est pas en capacité de reconnaître qu'il y a une vitalité existentielle, relationnelle, spirituelle au moment de la toute fin de vie, eh bien elle va accréditer l'idée que la fin de vie ne sert à rien et qu'il serait sans doute plus judicieux, peut-être même plus éthique, peut-être même plus bienveillant ou bienfaisant que... il serait peut-être plus judicieux de l'abréger. Considérant, on a des tas de propos autour de ça, que, ben voilà, je fais référence à ça parce qu'il y a les débats sur la loi Leonetti, hein, qui continue à être extrêmement actif. Est-ce que plutôt que d'arrêter les traitements, il ne vaudrait pas mieux carrément légaliser l'euthanasie, puisque finalement le résultat sera le même? Et on voit qu'il y a quand même une forme de carence de réflexion éthique sur laquelle on pourra discuter. mais parce qu'on considère que dès lors que quelqu'un a perdu des aptitudes, qu'il a perdu la tête, dès lors que, encore pas plus tard qu'il y a 3 semaines, il y a une dame qui me dit, ben moi de toute façon j'ai tout prévu, je vais aller en Belgique pour me faire euthanasie. Et je lui dis, elle a 90 ans, elle est très tonique, et je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie que... moi, je fais mon bénévolat dans une unité de soins palliatifs qui est à Rueil-Malmaison, où il y a 48 lits de soins palliatifs et 16 lits de maladie, 32 lits de soins palliatifs et 16 lits de maladies neurodégénératives. Donc, on a des situations de vie qui sont parfois peu communicantes. Et cette femme communique et elle me dit donc, je veux aller en Belgique parce que rendez-vous compte, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Je dis, qu'est-ce qui est insupportable? Elle me dit, mais tous les jours, je dépends de 2 personnes pour faire mes besoins. Et une femme comme moi, qui a pris sa vie en main dès l'origine, qui a toujours voulu être maître de son destin, je ne tolère pas que quelqu'un soit obligé de venir m'aider à faire mes besoins. Je trouve ça humiliant, je suis dans une situation de dépendance, donc j'ai tout prévu pour aller en Belgique. Et 2 semaines après... Donc ça, c'était il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi presque. Et 2 semaines après, je la revois et je lui dis, alors, vous en êtes où dans votre cheminement? Et, pardon?
Alors la Belgique.
Vous avez visité la Belgique, vous en êtes revenu finalement. Vous n'avez fait qu'un aller-retour. au moins, elle avait peut-être prévu le retour. Non, elle n'était pas allée en Belgique. Elle n'était pas allée en Belgique et elle me dit, bah écoutez... depuis que je suis ici, les choses ont un peu changé. Et puis finalement, c'est pas si grave tout ça. C'est pas si grave. Donc elle avait commencé à mesurer que peut-être que sa valeur la plus fondamentale n'était pas dans la préservation de cette dignité, pardon de le dire comme ça, mais un peu de surface, c'est-à-dire la dignité liée aux apparences, à la manière de donner le change dans une vie sociale. Et elle commence à accepter que des personnels puissent l'emmener aux toilettes, voire lui faire sa toilette, parce que de moins en moins, elle peut sortir de son lit. Et donc, à mesure que cette femme devient inerte, physiquement, extérieurement inerte, elle approfondit quelque chose de sa découverte d'elle-même, de la manière de relativiser, peut-être de reconsidérer des valeurs qui, pour elle, avant étaient extrêmement déterminantes. Et dans cette économie de vie, hein, où les choses deviennent de moins en moins faisables par soi-même, elle découvre quelque chose de l'ordre de la relation, et elle découvre un autre visage d'elle-même, et là où elle en était la dernière fois que je l'ai vue, mais je n'ai pas pu y aller depuis, et peut-être qu'elle n'y est plus, c'était de se poser des questions. Plutôt que d'affirmer « c'est une vie qui ne vaut plus rien », elle en était à lentement glisser vers « tout n'est pas obscur dans ce que je vis ici ». Alors des témoignages comme ça, on en a beaucoup. On a aussi des témoignages de gens qui restent dans une première posture d'une certaine perception de la dignité. Mais on voit que si dans notre société, on n'est pas capable de considérer que le moment de la fin de vie est encore un moment où l'être humain cherche à se mettre au monde avant de disparaître, ou tente de le faire, et si on ne donne pas aux gens, qui soient des professionnels, qui soient des bénévoles, qui soient les proches, la possibilité de regarder ce cheminement, d'y voir qu'il y a quelque chose de vif encore, alors on va censurer ce cheminement-là. On va le museler avant même qu'il ait eu une chance de se déployer. Et derrière, on va accréditer l'idée que quand on a perdu ses jambes, ou quand on a perdu la tête, ou quand on a perdu l'usage de ses sphincters, pardon d'être direct et peut-être trivial, eh bien, on perdrait son humanité. Donc la question de la mort qui nous interroge depuis extrêmement longtemps sur c'est quoi être un être humain, dès lors qu'on aurait aujourd'hui envie de l'évacuer, eh bien, elle nous enfermerait dans l'idée qu'un être humain se résoudrait à son utilité ou à ses relations quand tout va bien, à sa capacité d'être un acteur. Ça, c'est une première réflexion qui me semble importante, c'est comment est-ce qu'on peut réhabiliter le questionnement spirituel dans son ensemble, dans sa complexité, dans sa diversité, aujourd'hui dans l'espace public, et l'hôpital me semble être un lieu de prédilection. Corrélativement, on voit de plus en plus l'épuisement des professionnels à l'hôpital. Mais pas qu'à l'hôpital, dans les EHPAD et peut-être aussi à l'école. Parce que la question du sens, elle se pose aussi chez ceux qui se sont fait une mission de devoir aider des personnes dans des moments de difficulté, que ce soit un élève qui cherche à devenir un adulte et acquérir des connaissances, ou que ce soit un malade qui cherche à guérir, ou que ce soit une personne qui s'achemine lentement dans son vieillissement vers sa fin de vie. Et à force d'escamoter cette circonstance de la fin de vie, ou de vouloir la chosifier, et par extension de vouloir la contrôler, eh bien, on met aussi les professionnels en difficulté. J'observe de plus en plus des professionnels qui me disent « Mais moi, j'ai plus le temps de faire le métier de soin. On m'a rationalisé mon temps de travail, mais désormais on me dit que j'ai 7 minutes pour faire une toilette, que le temps de la relation que j'avais avec mes collègues dans les couloirs, il ne rentre pas dans les codifications de l'administration, donc il n'est pas reconnu, il n'est pas valorisé. Et donc j'ai le sentiment d'être réduit à une forme de chose, d'un exécutant. Or, je n'ai pas choisi ce métier juste pour des raisons techniques, je l'ai choisi pour des raisons humaines et pour être au plus près des gens qui souffrent et avoir le sentiment que ça a de la valeur d'être auprès des gens qui souffrent. Donc ça, c'est autant la question du sens autour des personnes malades, c'est une question qu'on arrive à traiter même si on est un peu mal à l'aise avec. Autant la question du sens chez les professionnels, c'est une question qu'on traite quasiment pas, qui va revenir en boomerang, parce que le système de santé ne changera que quand l'administration aura compris le risque qu'elle court à laisser se développer de la souffrance au travail, et avec les risques de judiciarisation, de médiatisation, bref, c'est moins la souffrance du patient que la souffrance des soignants qui va faire bouger le système. Donc, vous voyez que derrière, la question religieuse, pour moi, elle existe encore, mais la question spirituelle déborde la question religieuse, emprunte des voies qui sont modernes, qui sont très individuelles, en même temps avec des gens qui n'ont pas le mode d'emploi, donc qui sont un peu livrés à eux-mêmes, pour explorer cette vie de l'esprit. Et pour autant, chacun sent bien que si on ne met pas ça au cœur de la République, on risque d'avoir une forme de République qui gérera les choses visibles et qui passera à côté de ce qui constitue aussi l'expérience de santé au sens de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire un état de bien-être complet et pas simplement l'absence de maladie ou d'infirmité. Et donc on voit aussi que la question de la souffrance spirituelle, sur laquelle j'ai donc beaucoup travaillé, elle est petit à petit légitimée par les pouvoirs publics, des circulaires administratives, le ministère de la Santé qui a accepté de la prendre en considération. Elle est légitimée par l'Organisation mondiale de la santé qui l'a intégrée, qui a intégré la question de la spiritualité dans la définition mondiale de la santé. Mais par confort, par histoire, on est toujours tenté de la ramener à la question de la religion. Et on investit les représentants, les ministres du culte, de cette mission de répondre à la question spirituelle. Or, celle-ci a débordé le champ de la religion. Et donc, il me semble, c'est une conviction que j'ai, qu'elle touche désormais l'ensemble du tissu républicain et qu'elle doit être, elle devrait être pensée au cœur de la question de la laïcité et pas écartée de la question de la laïcité. Alors, je sais bien qu'il y en a qui aiment beaucoup mettre des adjectifs autour du mot laïcité, qu'il y en a d'autres qui disent pas du tout, il faut surtout pas mettre d'adjectifs parce que la laïcité c'est un pilier et on va pas le décorer ni d'une manière ni d'une autre. Mais en tout cas, moi je suis attentif à ce que il y ait quand même cette présence au cœur de la notion de la laïcité, que ça n'est pas l'exclusion des formes de spiritualité, que ce n'est pas simplement la cohabitation pacifique des formes de spiritualité, que ça n'est pas la juxtaposition des spiritualités, mais que ça puisse devenir un fil de partage, de dialogue, non pas autour de quelle réponse tu as, quelle réponse toi tu as, non pas autour de l'affirmation d'un certain nombre de convictions, mais plutôt se rassembler autour des questions. C'est pour ça que moi, l'expérience de la fin de vie m'inspire, c'est qu'elle est faite de questions et pas de réponses. Et que dès que lors qu'elle est faite de questions, eh bien, les gens se rejoignent plus sur les questions et le vertige. Je reprendrai Jean Leonetti, qui, dans un de ses bouquins, avait eu un propos que je trouvais très intéressant pour décrire le processus de la loi de 2005, dans laquelle il avait fait passer un certain nombre de nouveaux droits pour les personnes en fin de vie. Il disait au début, à l'Assemblée nationale, j'étais le rapporteur de la commission, et donc on savait que le gouvernement étant plutôt de mon bord politique, on avait créé une commission pluripartisane, plurielle, mais voilà, on savait qu'on maîtrisait le processus. Mais il a dit, sur ces questions aussi complexes que la fin de vie, on ne pouvait pas en faire une question politique comme les autres. Et donc, on a auditionné énormément de monde, et ces gens qui sont venus, ces témoins, ces experts, sont venus, nous ont tellement bousculés, qu'au début, on se frottait les uns les autres, entre députés, on s'affrontait même autour de nos convictions. Schéma classique. Et on essayait de dialoguer autour de nos convictions. Mais les questions que nous ont apportées les gens nous ont tellement désarmés qu'on a fini tous par se rejoindre autour de nos doutes. Et si la loi a pu être votée à l'unanimité, c'est pas parce qu'il y a eu un consensus mou, c'est parce qu'il y a eu cette rencontre au cœur d'une question anthropologique fondamentale qui est celle de la souffrance et de la mort, et que les gens se sont rencontrés autour de leurs doutes. Et ça, je trouvais ça vraiment très intéressant d'un point de vue éthique et d'un point de vue processus, même processus juridique. Donc, voilà, je ne vais pas parler trop longtemps parce que je pense qu'on a plein de sujets dont on peut justement discuter. Et puis, à chaque fois qu'on discute, moi, ça me donne envie d'en rajouter. Donc, je me réserve des choses à partager encore avec vous aujourd'hui. Mais il me semble que les personnes malades, les personnes en fin de vie, je n'ai pas parlé de la naissance, mais on a aussi des grandes questions autour de la néonatalité, des questions éthiques extrêmement complexes. On a aussi des questions autour de la mort des nouveau-nés qui ont surgi. Bref, que les questions autour des éléments les plus structurants de la vie, la naissance, la mort, sont portées par des témoins, des gens qui vivent ces circonstances-là, que notre responsabilité, c'est de les écouter sans filtre, sans a priori, sans chercher à les faire rentrer dans nos schémas de pensée à nous. Bref, nous laisser déplacer, peut-être un peu malmener par ces questions, de sorte que ces questions vont d'elles-mêmes être le ciment des nouvelles propositions ou peut-être des nouvelles approches qu'on pourrait avoir sur ces sujets-là. Et peut-être le ciment d'un dialogue un peu moins polémique et un peu plus pacifié, parce que face à ces questions-là, on est dans le vertige. Ayant dit cela, l'actualité récente nous a montré qu'elles peuvent rester encore des questions qui cristallisent les oppositions de manière très radicale. Donc on voit bien que la tentation de l'être humain, c'est quand même toujours de se ramener à des réponses, à des solutions, alors que ces questions nous invitent plutôt à laisser la question à l'état de question. Voilà ce que j'ai envie de dire pour poser un sujet. Maintenant, j'aimerais bien qu'on en discute.